L'apostasie. Parmi les premières épîtres du Nouveau Testament à être écrites sont les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Un problème dans l'église de la ville de Thessalonique dont il est question dans ces épîtres est que de fausses doctrines se répandaient au sujet du retour de Jésus-Christ. Dans la première épître, Paul rassure les disciples que leurs frères chrétiens qui étaient déjà décédés seraient ressuscités à la venue de Jésus et enlevé avec les sauvés pour être à jamais avec le Seigneur au ciel. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Dans sa deuxième lettre, Paul dément la fausse idée que le jour du Seigneur était déjà venu sans que beaucoup d'hommes le sachent. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, un chapitre qui contient quelques points difficiles à interpréter avec certitude, Paul dit à ses chrétiens du milieu du 1er siècle que ce jour n'arriverait pas avant que ne se produise un événement appelé l'apostasie. 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que l'apostasie? Très simplement, le mot apostasie signifie l'abandon d'une religion. Bibliquement, il s'agit bien sûr de se détourner de la vraie religion, celle qui est révélée dans les Écritures. Un individu peut apostasier en faisant retour à une vie mondaine et pécheresse. Un individu ou même une église peut apostasier également en se détournant de la vraie doctrine pour enseigner des faussetés et suivre des pratiques qui sont contraires à l'enseignement de la Bible. Il semble que l'apostasie dont Paul parle aux Thessaloniciens devait être à grande échelle. L'apostasie prédite. Plusieurs autres passages parlent d'une apostasie sans employer le mot. En Actes 20, versets 29 et 30, Paul avertit ainsi les anciens de l'église d'Éphèse. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » L'apôtre Pierre également prédit l'activité de faux docteurs parmi les chrétiens, et la création de sectes pernicieuses, c'est-à-dire dangereuses ou nuisibles. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. En 1 Timothée 4, versets 1 à 3, nous avons encore cette prophétie. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Les derniers temps. L'expression « dans les derniers temps » qui paraît en 1 Timothée 4 et d'autres passages mène beaucoup de personnes à conclure que l'Esprit parle de quelque chose qui ne devait pas concerner le christianisme pendant la plupart de son histoire, mais seulement pour les dernières quelques années avant la fin du monde. En voyant la multiplicité de dénominations modernes, elle s'exclame « Jésus va sûrement revenir bientôt, puisque la Bible a dit qu'il y aurait beaucoup d'églises à la fin du monde ». Je ne soutiens pas ici que Jésus ne revient pas bientôt. Dieu seul sait combien de temps reste jusqu'à la fin de toute chose. Mais l'avertissement contre l'apostasie et les sectes ne concerne pas uniquement la période juste avant l'avènement du Seigneur pour le jugement. On ne peut pas supposer que toute église sur la scène religieuse depuis un certain nombre d'années est admissible et que c'est uniquement celles qui sont créées de nos jours qu'il faut se méfier. En effet, l'expression « les derniers jours » ou « les derniers temps » est employée dans la Bible pour parler de toute l'ère chrétienne. Par exemple, Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre voulait expliquer le phénomène du parler en langue comme une manifestation du Saint-Esprit qui avait été promis. Il cite une prophétie du livre de Joël qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et en parlant de ce que les hommes voyaient ce jour de la Pentecôte, Pierre dit « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Acte 2, versets 16 et 17. Selon ce passage, Pierre et ses auditeurs se trouvaient déjà, il y a 2000 ans, au dernier jour. Hébreux 1, versets 1 et 2 dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » La version seconde révisée, dite Colombe, le rend encore plus clair. « Dans ces temps qui sont les derniers. » D'autres passages qui identifient le premier siècle comme faisant déjà partie des derniers jours ou derniers temps sont Jacques 5, verset 3, 1 Pierre 1, verset 20, 1 Jean 2, verset 18 et Jude, verset 17 à 19. Depuis le premier jour de la Pentecôte, après la mort du Christ, donc jour où l'Évangile fut prêché pour la première fois, nous sommes au dernier temps, la dernière ère qui existera avant la fin du monde. Les avertissements au sujet d'une apostasie dans les derniers temps ne se référaient donc pas spécialement au XXe ou XXIe siècle. L'apostasie combattue au temps des apôtres. C'est ainsi que nous voyons déjà au premier siècle une lutte menée par les apôtres et d'autres hommes fidèles contre la tendance de se détourner de la vérité ou de déformer l'Église. Paul écrivit aux chrétiens galates pour les ramener dans la voie dont ils s'égaraient déjà. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 1, versets 6 et 7. Aux Corinthiens, il dit « Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 14. À Timothée, Paul écrivit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée 1, verset 3. En fait, le Nouveau Testament est rempli de traces d'une lutte contre l'apostasie en forme de diverses fausses doctrines, lutte qui avait déjà commencé. La nature progressive de l'apostasie. L'abandon de la vérité se produit rarement d'un seul coup. Le plus souvent, l'éloignement de la vérité biblique se fait petit à petit, parfois si graduellement que l'on ne s'en aperçoit pas. Prenons deux exemples de l'éloignement de la simplicité et la pureté de l'Église et de son enseignement, tels qu'ils sont présentés dans la Bible. L'organisation de l'Église. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons que chaque assemblée locale était dirigée par son propre groupe d'anciens ou évêques, établis selon des critères enseignés par les apôtres. 1 Timothée 3, 1 à 7, Tite 1, 5 à 9, Acte 14, 23, Acte 20, versets 17 et 28, 1 Pierre 5, 1 à 4, Philippiens 1, verset 1. Aucune distinction n'était faite entre l'autorité d'un ancien et d'un autre. Les mots « ancien » et « évêque » étaient employés interchangeablement. Selon l'histoire, une évolution en ce qui concerne l'organisation de l'Église a commencé graduellement au IIe siècle. Au lieu d'avoir des anciens qui étaient tous égaux, des églises élevaient un de leurs anciens au-dessus des autres et lui réservaient le titre d'évêque. Par la suite, l'autorité de ces évêques qui se trouvaient dans les grandes villes s'étendirent petit à petit sur les assemblées dans les petites villes et les villages aux alentours. Vers la fin du IVe siècle, on distinguait les évêques de 5 villes importantes, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome, comme patriarches établis sur les différentes régions du monde. Mais il a fallu encore plus de 200 ans jusqu'à ce que l'évêque de Rome parvienne, au début du VIIe siècle, à se faire reconnaître dans une grande partie du monde comme évêque universel, ou pape, chef sur toute l'Église. Les hommes ont ainsi abandonné l'autonomie des églises locales sous la conduite de leurs propres anciens pour créer une hiérarchie mondiale d'origine humaine. L'égarement ne s'est pas arrêté là, pourtant. Les honneurs et les droits attribués au pape se sont accumulés au cours du temps, jusqu'à ce qu'en 1870, la doctrine de l'infaillibilité fut adoptée comme dogme, c'est-à-dire une croyance officielle de l'Église catholique. Selon cette doctrine, il est impossible que le pape soit en erreur en matière de doctrine quand il parle officiellement pour l'Église. Il ne peut pas se tromper. Le rôle de Marie, la mère de Jésus. Une grande transformation a eu lieu également en ce qui concerne les attitudes envers Marie. Dans le Nouveau Testament, elle est représentée comme la femme pieuse que Dieu choisit pour mettre au monde Jésus, le Sauveur. Elle avait sûrement sa place parmi les hommes et les femmes de foi qui servaient d'exemple à suivre pour les chrétiens. Elle est mentionnée par nom pour la dernière fois dans la Bible, pourtant, en Actes 1, verset 14, où il est simplement dit qu'elle était parmi les disciples à Jérusalem entre l'ascension de Jésus et le jour de la Pentecôte. Rien dans le Nouveau Testament ne lui attribue un rôle quelconque dans la vie quotidienne du chrétien. Aucun passage dans les Épîtres ne l'honore ni ne recommande de lui adresser des prières. Mais à cet égard aussi, on constate un éloignement de plus en plus prononcé par rapport à ce que la Bible, la parole de Dieu, enseigne. À la fin du IIe siècle, on rencontre pour la première fois l'idée que Marie est restée vierge, même après la naissance de Jésus, bien que cette idée soit vivement contestée au départ. Au début du Ve siècle, certains ont avancé l'idée que Marie n'avait jamais commis du péché. En 431, un concile tenu à Éphèse lui donna le titre « Mère de Dieu ». Aussi, pendant le Ve siècle, commença-t-on à l'invoquer comme un intercesseur, une médiatrice. L'exaltation de Marie continua et continue jusqu'à ce jour. En 1854, l'Église catholique accepta officiellement la doctrine de la conception immaculée, qui enseigne que Marie fut née exempte de la souillure du péché originel. On pourrait dire en passant que même l'idée d'une souillure du péché originel héritée de nos premiers parents fait partie des fausses doctrines de l'apostasie. En 1950, l'Église catholique affirma solennellement que Marie fut enlevée miraculeusement au ciel sans passer par la mort. C'est l'Assomption. De nombreuses doctrines non bibliques, acceptées non seulement par les catholiques, mais aussi par beaucoup de protestants, pourraient illustrer ce principe. L'apostasie est un processus qui se déroule au fil du temps quand les hommes ne s'attachent pas à la vraie parole telle qu'elle est conservée dans la Bible. Les fruits de l'apostasie. Les effets de l'abandon de la vérité sont très graves. Un verset que nous avons cité, 2 Pierre 2, verset 1, attribue aux faux docteurs l'introduction des sectes ou divisions. Ceux qui ne se conforment pas à l'enseignement de la Bible, et non ceux qui refusent de se soumettre aveuglément aux dirigeants humains d'une église établie, sont à l'origine des sectes. Un groupe n'est pas une secte parce qu'elle est minoritaire, mais parce qu'elle ne suit pas la foi qui nous est indiquée dans la parole de Dieu. Un deuxième effet de l'apostasie est la condamnation éternelle. Paul dit aux Galates, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Galates 1, verset 8. Aux Corinthiens, Paul rappela l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Pierre parle de ceux qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine, et il nous exhorte. Vous donc, bien-aimés, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 2 Pierre 3, versets 16 et 17. La solution au problème. L'apostasie a donc été prédite, et ces prédictions se sont réalisées il y a bien longtemps. Et elles continuent de se réaliser tant que les hommes s'attachent à des doctrines qui sont étrangères à la Bible. Ces apostasies sèment la division parmi ceux qui croient en Jésus. En plus, elles apportent la condamnation à ceux qui séduisent et à ceux qui sont séduits. Matthieu 15, versets 13 et 14. Quelle est donc la solution à ce grand mal? Le prophète Jérémie donna la réponse 600 ans avant Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie 6, verset 16. Il suffit de faire un retour en arrière, à l'aide de la parole de Dieu. Un tel retour à la bonne voie n'est pas aussi difficile qu'on ne le pense. Ce serait une erreur, d'ailleurs, d'affirmer que l'apostasie a jamais été universelle, au point de faire disparaître de la face de la terre l'Église que le Seigneur a fondée. En prophétisant au sujet de l'Église ou royaume, Daniel dit « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement. » Daniel 2, verset 44. Bien que souvent persécuté par les autorités ou ignoré par la majorité des hommes, des groupes de fidèles qui cherchaient à être tout simplement des chrétiens et à suivre l'enseignement de la Bible seule ont existé dans plusieurs pays au cours des âges, depuis le premier siècle et jusqu'à nos jours. De tels mouvements, dont plusieurs étaient en existence même pendant le Moyen Âge et bien avant le commencement de la réforme protestante, ont laissé des traces dans l'histoire ou continuent de prêcher la simple vérité en Albanie, Allemagne, Amérique, l'Angleterre, Arménie, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Inde, Serbie, Suisse, Tchécoslovaquie, Ukraine, Yougoslave et ailleurs. Leur but n'était pas de réformer des dénominations d'origine humaine, mais de tout simplement pratiquer le christianisme révélé dans la Bible. Le fait que les livres d'histoire ne parlent pas souvent de ces groupes du passé, ou que les journaux ne mentionnent pas ceux qui sont actifs aujourd'hui, ne réfute pas leur existence. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, verset 19. La possibilité de restaurer ou de redécouvrir l'Église dont la Bible nous parle est confirmée non seulement par l'exemple de ces groupes dont nous venons de parler. Le principe biblique que la parole de Dieu est comme une semence nous assure que cette possibilité existera toujours. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre 1, versets 23 et 25. Une semence produit toujours la même espèce de plante, quel que soit le lieu ou l'année où on la sème. Les doctrines des hommes produisent des dénominations, mais la saine doctrine de la parole de Dieu produira toujours ce qu'elle a produit au premier siècle, de simples chrétiens et des églises du Christ.